RMC Running,
Mathéo Rollet.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Toujours à Chamonix, dans ce cadre idyllique pour le trail, pour cette semaine spéciale UTMB. Et quoi de mieux pour parler de cette course que de recevoir les deux premiers Français de cette Ultra Trail du Mont Blanc. Dans l'ordre, Thibaut Garellier, cinquième de cette course, dans un plateau toujours aussi relevé ici à Chamonix. Et puis l'éternel Ludovic Pommeret, encore présent, sixième et auteur d'une remontée dont il a le secret. On va analyser, débriefer cette course qui fait tant rêver. T'es prêt, Yodu? On peut en parler?
Ah, je suis prêt, je suis avec mon idole, donc là, je suis content.
Allez, c'est parti pour ce résumé de l'UTMB.
RMC Running.
Bon Thibaut, je viens vers toi forcément en premier parce que cette cinquième place sur cette UTMB t'offre aussi la place de premier tricolore. C'est magique pour toi, est-ce que tu arrives à comprendre ce qui se passe pour le moment?
Ouais, bah moi c'était un objectif en venant courir sur l'UTMB il y a maintenant 4 ans pour ma première édition. Je me doutais bien que je le réaliserais pas forcément dès la première tentative, donc... Je m'étais fixé un cycle de 3 ans et malheureusement l'an dernier pour ma troisième année je me suis blessé avant le départ, donc ouais c'est voilà, c'est quand même l'aboutissement en fait d'un objectif qui me motivait particulièrement, et puis je restais un petit peu sur ma faim sur cette course, donc là ça me permet de cocher un petit peu la case quoi, sachant qu'aujourd'hui je pense que j'ai quand même couru proche de mon meilleur niveau, et après les minutes à gratter elles sont de plus en plus chères quoi.
Mais c'est peut-être le temps qu'il faut pour arriver à perfer sur l'UTMB. On dit souvent 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. Ouais, c'est rarement du premier coup, en tout cas, l'UTMB, tu confirmes?
Je pense que ça dépend peut-être pour qui, mais ouais, pour moi, ça a mis un peu plus de temps. Après, j'avais fait 6e, ça avait été une...
J'ai mis 5 ans. Hein.
Une bonne perf. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une course quand même pleine. En adéquation avec mes capacités quoi.
Ludovic, toi tu finis 6e, donc juste derrière Thibaut que t'as chassé un petit peu sur la fin. Il a eu chaud Thibaut?
Non, il a pas eu chaud en fait. Il m'a vu arriver je pense dans la bosse, et puis il y a le chinois c'est G?
Gigi
qui est revenu sur lui, ils en ont remis une, et là j'avais pas la capacité d'accrocher quoi.
Ouais, mais...
juste pour revenir, le temps qu'il faut en fait, Thibaut depuis le début il a dit il faut une année pour découvrir, une année pour progresser et une année pour perfer. C'est à peu près ce qu'il a fait, parce que l'année dernière, en fait, il a eu une blessure, donc voilà, 3 ans.
Cette 6e place pour toi, dans des conditions extrêmes, on peut le dire, hein, il y a même neigé sur les plus hautes pentes de cette UTMB. C'est une place qu'on prend, on peut pas refuser un top 10 comme ça sur l'UTMB, c'est toujours magique. Même si t'en as l'habitude et que tu l'as même gagné en 2016.
Ah oui, non mais ouais, top 10, de toute façon, enfin, on me l'aurait déjà dit avant la course, moi je le prenais, hein, il n'y a pas de souci. J'ai pas bien compris, parce qu'il me semblait que j'avais entendu 23 à Bertone, mais j'ai doublé personne, et après on m'a dit 10 à Arnouva, donc j'étais dans la target quoi. Après j'aime bien sécuriser un peu, prendre une ou deux cartouches de rab quoi.
Et ouais, les remontées dont t'as le secret, explique-nous un petit peu cette stratégie de course, de partir prudemment, de laisser peut-être certains se cramer les ailes devant et de remonter petit à petit à ton rythme finalement.
Ouais, pas tant que ça, parce que je crois que sur les ouches... sur Saint-Gervais, je dois passer 3, non? C'est ça? Comme ça.
Donc, ouais, tu passes 3, exactement.
Bon, après, peut-être que...
Finalement, cette année, il fallait partir fort.
À Thibaut, depuis ma diagonale en 2009, j'ai jamais eu autant mal aux jambes de ma vie. Donc, peut-être que je l'ai payé quelque part.
Pour le dire aux auditeurs, Ludovic est arrivé, bon, bah, compliqué de marcher, on peut le comprendre. Après, 174 bornes...
Ah, il boite un peu, ouais.
Mais... Déjà, après un marathon, Yodu, c'est compliqué. Alors, après un ultra-trail...
Ah, pour un ultra, bah là, t'as les pieds... Encore, j'ai l'impression que les orteils, ça va à peu près,
non,
mais souvent, t'as des ongles un peu abîmés.
Les pieds, il n'y a pas de souci pour moi. Les ampoules. C'est vraiment... Enfin, je sais pas pourquoi,
musculaire.
Mais je vois marcher Thibaut, je dis, on doit pas être... comme les autres, parce que moi, quand je m'arrête un quart d'heure après
tu peux pas remarcher,
c'est fini,
ouais,
ça repart
pas.
Thibaut,
un jour si je me lis sur le tort je me dis que ça va être dur.
Ouais. les pieds
ouais,
qu'on se fait
moi,
un petit peu.
Les deux ongles de pied, moi une fois
ils ont sauté.
Le problème c'est que je fais qu'un ultra par an, donc
je sais, pas
je
si
sais que l'ongle il tient entre 80 et 100 km selon le dénivelé, donc si je passe pas ce cap là après ça met un an à tomber et repousser. Donc en gros faut faire un ultra par an. Moi c'est toujours l'UTMB, donc
ça fait toujours mal aux pieds.
Ça fait toujours mal aux pieds.
Un ultra dans tous les cas. Parlons un petit peu de ces conditions météo. On a dit c'était des conditions très très difficiles à certains moments. Vous aimez ce genre de conditions dures pour finalement parfait, notamment la neige, le froid, la pluie, ça a été rude cette nuit?
Moi je préfère quand il fait beau et chaud, mais bon.
Non, mais après, ça n'a pas été. Enfin, pour moi, les conditions n'ont pas été vraiment compliquées.
Tu ne m'es pas d'accord.
Non, mais enfin, je veux dire, j'ai pas eu froid. Enfin, j'ai jamais eu froid. Moi, je me suis couvert très tôt. Je crois que je suis un des seuls à être parti avec la veste de pluie parce qu'on voyait arriver tout noir là-bas. Donc, je me suis couvert vraiment tôt. Je suis un des seuls aussi à avoir mis un pantalon en fait à la balle, donc je sais pas quelques mètres en est, mais super tôt. Et non, pas de problème de voilà de chaleur. Après, les conditions étaient un petit peu glissantes quand même en haut parce qu'il y avait juste une petite pellicule, juste ce qu'il faut pour bien glisser.
C'est beau, pas d'accord. Toi, les conditions étaient plus dures pour toi.
Moi, j'ai trouvé quand même ça assez assez dur. Après, c'est vrai que moi, j'ai plutôt fait le pari de me dire on va pas y passer longtemps. Et du coup, je me couvre un petit peu le minimum. Donc, après, quand même, c'est surtout les mains. Donc, généralement, c'est pas. Voilà. Par contre, après, j'avais fait un choix de semelles de chaussures très peu crantées.
Oh.
Et là, avec la neige, j'ai pas rigolé. Ouais. Déjà, la boue dans la première. Les deux premières descentes.
Quelques frayeurs, du coup, ouais.
Ouais, des petites chutes, mais sans. Des petites glissades.
Sans gravité.
Après, sans gravité. Mais c'est vrai que, ouais, j'aurais.
Alors que l'arrivée de l'UTMB, hein, toujours pendant le podcast, mais finalement c'est ça la beauté de Chamonix aussi, on applaudit n'importe quel concurrent, qu'il soit premier ou dernier. Bon là c'est encore dans le haut niveau féminin, mais ça aussi, cette ambiance là, malgré des conditions peut-être difficiles pour toi Thibaut, à l'arrivée c'est indescriptible, on se dit qu'on s'accroche pour ça aussi quoi.
Ouais, moi c'est pas la raison numéro un pour laquelle je fais ça, mais après c'est super agréable, faut pas se le cacher. Cette année, moi j'ai trouvé quand même beaucoup moins de monde sur le parcours.
Plutôt pas d'accord.
Non, pas forcément d'accord, j'ai trouvé quand même pas mal de monde.
J'ai l'impression que les activations qui s'organisaient à Valorcine, à Notre-Dame-de-la-Gorge, ça rameute tellement de monde, et puis je pense quand même avec la météo,
là, ouais,
au col de la Seine, il n'y avait pas grand monde.
C'est peut-être plus concentré alors.
Plus concentré, mais même de façon globale, je trouve quand ils faisaient. À partir du lever du jour, il y avait quand même un petit peu moins de monde au bord des sentiers, mais en même temps, la météo, elle n'invitait pas vraiment à aller.
Il fallait être motivé.
Parle-nous un petit peu de cette arrivée, Thibaut. Ici, dans Chamonix, on dit qu'il y a à peu près 2 bornes pour vraiment profiter de cette atmosphère. Bah, j'imagine qu'en tant que premier français, on n'est quand même pas accueilli de la même manière que quand on est 15, 20e. Sur cette course quoi.
Moi c'est la première fois que je l'expérimente. Après, vu que Ludo m'avait passé mes 2 premiers UTMB juste avant la fin.
Upper.
pour les places de 5 et 6. Et quand on m'annonçait, bon quand même à la fin, t'es quand même pas bien. Donc quand on m'annonçait que c'était Ludo derrière, je me dis.
Pas encore.
Encore Ludo, il faut la malédiction. Donc je lui ai demandé un petit peu les écarts et je suis quand même descendu la première moitié de la descente vraiment fort, enfin ce que je pouvais quoi. En me disant je connais l'animal, je sais pas dans quel mood il est après c'est vrai que Ludo il peut faire vraiment des différences énormes dans les descentes, en tout cas sur moi. Donc je voulais quand même me mettre à l'abri de ça, j'ai essayé.
Oui, j'allais quand même pas boucher 20 minutes, non, c'est à peu près ça qui doit y réfléchir. Oui.
Non, Ludo, t'as réussi à profiter toi, même si comme l'a dit Thibaut, on arrive en Chamonix, on est complètement cramé sur un UTMB, mais c'est quand même spécial cette arrivée ici à Chamonix.
Alors profiter, c'est un grand mot. Parce que
on a le temps de capter tout ce qui se passe en fait, de voir autant de monde.
Ouais, alors ça par contre, pour moi, je sais pas comment Thibault l'a vécu, mais moi j'ai des encouragements de ouf tout le long de la course, et avec des mots des fois, qui te mettent aussi une larme à l'œil quoi. Enfin, toi, je suis un peu plus. J'ai pleuré pas mal sur cette course parce que j'ai pleuré un peu de douleur dans la descente de Trian et puis la d'émotion sur la fin de course. Donc, ce monde sur le parcours, c'est assez dingue. Je sais pas. Du coup, c'est ce que j'ai demandé à Thibaut, s'il avait la même chose, s'il ressentait la même chose en fait.
C'est les frissons.
Le long du parcours. Quoi. Après, il m'a dit que souvent on l'appelait Ludo. Donc.
Ouais, pendant le premier tiers, on me dit allez Ludo.
Les gens se trompent encore.
Bah, c'est vrai qu'on a quand même, on disait, on a quand même un morphotype qui se trouve, enfin, après, dans la nuit, avec la pluie.
Oui, il y a. Voilà, donc, c'est compliqué. Les frontales qui.
Donc, ça, il est souvent caché.
Bon, sur RMC Running YouTube, vous le voyez, pour les auditeurs qui nous écoutent, faut expliquer, on est avec deux Yeti là.
Ah ouais, ils ont pas chaud. Hein.
Deux Yeti qui sont ici complètement gelés, les pauvres. On essaye de faire au mieux, mais c'est vrai qu'après l'arrivée d'un ultra, la fatigue, tout ça, le froid se fait ressentir.
Ils sont arrivés à peine il y a 3h, hein, 4h, hein, donc.
C'est clair que les sollicitations s'enchaînent. Yodu, on parlait des arrivées. Toi qui as fait les plus beaux marathons du monde, qui découvre cette année Chamonix pour l'UTMB, toi qui n'étais jamais venu pour cette course. Comment est-ce que tu trouves cette ambiance trail et cette arrivée où, voilà, on le dit, il y a deux bornes de pur plaisir quand on est encore en forme?
Je trouve que c'est quand même décuplé par rapport à un marathon, dans le sens où tu sens qu'il y a une atmosphère, tu sens que le village il vit que pour la course. Là actuellement, depuis lundi, Chamonix est 100% focus sur le truc. Et il y a la musique, ils ont créé un truc avec la musique là, qui accueille les coureurs.
Et au départ aussi.
Et le départ bien évidemment aussi. Mais sur la zone d'arrivée, je trouve que ce truc-là rajoute de l'émotion encore plus. Et puis surtout, c'est des warriors, c'est-à-dire que bah, sur marathon, t'as souffert 3 heures, 4 heures, 5 heures, allez, ça s'arrête là, tu vois. Là, on est face à des mecs qui ont souffert 20 heures et les prochains qui arrivent, bah, il y en a, ils vont même passer 2 nuits dehors. Donc, c'est ultra dingo et je trouve que du coup, bah, c'est une libération pour eux et c'est une libération pour les suiveurs et c'est une libération pour les spectateurs. Et le côté émotionnel est décuplé par rapport au marathon et le côté musique, pour moi, il est quand même. Ils ont trouvé quelque chose qui est supérieur, tu vois, grâce à ça.
Justement, Thibaut, on parlait de la musique à l'arrivée, mais on en a parlé de cette arrivée. Parle-moi un petit peu du départ. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ses émotions? On parlait lors d'un précédent podcast avec Arthur Joyeux-Bouillon notamment, qui disait qu'on peut être complètement cramé dès le départ à cause de cette gestion d'émotions. On voyait énormément de gens en pleurs hier, ou la larme à l'œil en tout cas.
Bah, t'as de l'attente aussi, l'attente.
Exactement, comment est-ce que tu gères ça, toi, cette avant-course?
Bah, moi je l'ai pris un peu en plein dans la figure la première édition.
C'est ça, c'est sur la première édition.
Voilà, ouais. Et puis après j'ai appris à. Ouais, c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, Yann, la musique elle procure un peu des émotions qui transportent un peu, quoi. Et après il faut aussi se rendre compte que, alors moins pour nous, mais quand même pour nous aussi, mais pour la plupart des gens qui sont sur la ligne de départ, c'est souvent des années de sacrifice parce que le processus de qualification
est compliqué.
Il peut prendre un an, deux ans. Après, il y a un tirage au sort. Donc, peut-être que des fois, les mecs, ça fait 5-6 ans qu'ils tentent leur chance. 5-6 ans dans une vie de famille pour préparer un truc comme ça.
C'est énorme.
Sachant qu'il faut faire une course qualificative du même calibre dans les 15 mois d'avant. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Si tu as une femme et des enfants, c'est quand même difficile à accepter. C'est quand même beaucoup d'investissement. Et je pense que. Enfin, des fois, sur la ligne de départ, quand je regarde les gens dans le sas de départ, j'ai l'impression de ressentir ça.
Ouais.
Des gens qui ont beaucoup investi et qui sont enfin là, quoi. Beaucoup des
c'est
étrangers.
Une récompense, ouais.
Pardon ?
C'est une récompense.
Une récompense et puis, ouais, un aboutissement d'un process. Et pourtant, la course...
Elle n'est pas démarrée.
Elle fait peur.
Ouais, enfin, ouais. Bon. Ah, bah, c'est mythique, ouais.
Moi, hier, au départ, avec une météo comme ça, j'ai peur. Enfin, franchement, j'ai pas peur de le dire, je sais ce que ça peut être, ces conditions là quand tout va bien, tout va bien. Je m'imaginais un peu dans les pyramides calcaires avec moins 7 de ressenti de la neige. Ah, si tu tombes là, t'as beau avoir une couverture de survie et un truc, si le temps que tu te fasses héliporter,
c'est compliqué, hein.
Là tu passes une mauvaise demi, enfin d'ailleurs, ouais.
je suis pas sûr qu'il volait là, parce qu'il y a quand même beaucoup de neige, de vent, visibilité.
En fait, ça peut vite arriver,
ouais. C'est dangereux, hein. C'était difficile, en fait, parce que quand il neige, en fait, on a un peu un écran comme le brouillard.
Bien sûr, on voit rien.
Un peu de brouillard aussi sur Grand Col Ferret, donc.
Ça, c'est changement, c'est compliqué à anticiper là. Quand on, bah, tu es à quelques heures de la course, tu sais pas, c'est pas évident, ça.
C'est pas quelles conditions trouver
le matériel. Déjà, rien que là, il y avait des grosses averses à des moments qui changeaient tout le temps dans les prévisions le matin de la course.
Ouais.
Et donc quand tu prends une averse là à Chamonix au départ, comme on a
À 32 il a plu, vous êtes à 45 vous êtes parti, 47 voilà. Il pleuvait, ouais.
Mais là tu risques pas grand chose en fait, parce qu'il fait pas froid. Par contre, si tu prends l'averse comme on a fait, limite pluie neige ressenti moins 7 là à 2005,
ouais,
Je pense que ça tombait quand même, hein, parce que la neige était quand même. Enfin, ça tenait au sol. Donc, c'était quand même des précipitations relativement importantes. Et il parlait de la pyramide calcaire, donc c'est une section qui a été supprimée par la course. Et je pense que c'était une bonne décision parce que ça aurait pu être dangereux.
Quoi. Et justement, on parlait de la pluie au départ à Chamonix. Il y a quand même une donnée à prendre en compte, c'est que généralement, au premier ravito, on essaye de prendre un peu la nutrition qu'on avait prévue, etc. C'est quand même très rare qu'on se change dès le premier ravito. Là, vous êtes beaucoup à avoir pris cette décision de se changer complètement parce que vous êtes arrivé complètement trempé, en fait. Ludo, toi, comment ça s'est passé ?
Non, alors moi, j'avais prévu en fait tous les ravitos assistés, en fait, parce que au départ, en fait, pas tous les ravitos sont assistés. Donc, on a notre crew, en fait, hein, qui vient nous amener un sac. Donc, j'avais prévu sur les ravitaux assistés de prévoir quelque chose pour changer, quoi. Et je suis un des seuls à être parti en voyant ce qui arrivait sur les ouches avec la veste, en fait, voilà, très tôt.
Ça c'est l'expérience qui parle quand Thibaut disait l'animal,
moi,
c'est pas pour rien.
Je voulais pas me battre en fait contre la fraîcheur, cramer en fait des calories pour rien. Ouais, j'ai eu des éditions en trail qui étaient beaucoup plus compliquées avec beaucoup plus de neige, et puis où là j'ai vraiment souffert du froid. Donc ouais, un peu d'expérience, ouais.
Thibaut, tu a fait le même choix aussi, te changer malgré un peu moins d'expérience que Ludo, malgré quand même 4 UTMB maintenant, enfin 3 parce qu'il y a eu une blessure. Mais c'était un choix non négociable presque, c'était une obligation.
Ah ouais, moi là, fallait changement intégral, en tout cas du haut du corps, à chaque ravito, même la veste de plus, j'ai changé pour repartir sec.
Quitte à perdre du temps, c'est pas grave.
Ouais, là c'est. Après, on est quand même sur une course d'une vingtaine d'heures. Donc je sais pas le temps cumulé d'arrêt sur les ravitaux, mais enfin, changer un t-shirt ça se fait en une trentaine de secondes. Voilà, après dans le trail, en ultra, t'es toujours un peu sur la réserve. Voilà, bon, il y a un moment 30 secondes.
Vaut mieux ça que
choper
froid au bide avec à cause de son t-shirt trempé, vaut mieux perdre 30 secondes que.
Voilà, la course, quoi.
Que la course, exactement, ouais.
Oui, beaucoup plus à perdre qu'à gagner.
Ah, exactement, ouais, c'est ça, ouais.
Et justement, là, je vais pas parler des ravitaux assistés comme on en parlait avec Ludovic, mais des sacs que vous avez dans le dos finalement. Parce que on en parlait pareil avec Arthur Joyeux-Bouillon, il y a quand même des fois où on flirte un peu avec le règlement, se dire il faut un collant, bon, bah, pour avoir gagné un peu de poids, je prends un collant DIM pour pas hésiter la marque, et puis c'est plus léger. Là, est-ce qu'on se dit non, là, je rigole pas, je prends tout de chaud et tant pis, c'est plus lourd ? Ludo.
Non, en fait, moi je joue avec le règlement, mais par contre, du coup, en fait, tout ce que j'avais en matériel obligatoire, en fait, ça restait dans mon sac, je le prenais pas, quoi. Donc j'avais des trucs en plus au final, quoi. Parce que je suis parti avec un maillot, en fait, assez épais, mais après, c'est trop vite fait, en fait, d'oublier un truc et puis de se prendre une péna. Je crois que c'est une heure péna si t'as pas un truc. Donc voilà. Avec le matériel, par contre, soit on peut avoir collant. Ou quelque chose, moi je porte des chaussettes de compression assez hautes, un short qui est assez long.
Ça
donc
coupe le froid,
il faut
oui.
Juste un petit truc pour voilà, masquer les genoux, quoi. Donc oui. Moi j'ai pris des manchettes super légères et voilà, mais ça pèse rien et je peux les rentrer quand même. Il faut quand même que ça fit, quoi.
C'est une course contre le poids, Thibaut aussi ça joue, hein, parce que dans les montées il faut être le plus léger possible, mine de rien.
Ouais, bah moi j'ai eu la même stratégie, je garde dans le sac le matos. J'ai eu 4 frontales à des moments. Alors après, en fait, il y a des toutes petites frontales très légères. Et par contre, après, pour la nuit, quand je pars sur le col de la Seine, j'ai la grosse frontale et j'ai une frontale de secours qui fonctionne. Et tout ça, je le pose en fait une fois la nuit terminée, ou en tout cas, voilà. Et ça a bien servi à mon collègue Josh qui fait 3e, qui a sa frontale qui s'est éteint, et donc je l'ai éclairé pendant 10 bornes pour la descente à Courmayeur. Ah oui. Parce qu'il n'avait plus de pile de frontale. Ah et oui. Il n'avait pas de pile de hors, enfin il avait, voilà, il jouait avec le règlement, donc ce qui fait qu'il n'avait pas de quoi s'éclairer correctement. On a des micros frontales mais bon, qui ne te permettent pas de descendre quand tu es dans le top 10 de la course. Descendre de 1200 mètres de dénivelé, quoi.
D'accord. C'est assez dingue, ça, de. En fait, c'est rare les sports où on va se dire là, il y a un concurrent qui est un peu dans la mouise, je vais l'aider, quoi, parce que sinon. Et là, là, en plus, au-delà de l'aider, c'est que faire une descente dans le noir comme ça, c'est dangereux, finalement.
Ouais,
c'est...
mais après, ils en parleront mieux que moi, mais j'ai l'impression que le trail, il y a. Pendant les premières heures, pendant trois quarts du parcours, tu t'entraides presque. Tu cours en groupe, le mec il va pas partir tout seul, prendre 200 mètres d'avance et courir une minute devant tout le monde, tu vois. Tu restes en peloton et après tu te saignes sur les 4-5 dernières heures. Et moi c'est comme ça que j'ai eu l'impression que la course se passait. Donc je sais pas si c'est comme ça que ça se vit, mais effectivement j'ai l'impression que vous courez davantage en groupe pendant un long moment. Et après bah c'est un peu chacun pour soi.
Plus ou moins.
Ouais, après c'est beaucoup des courses par l'arrière comme on dit en vélo.
Oui, ça s'éteint, ouais, ça s'écrème, ça saute.
On est un sport, la course à pied en général. Je connais pas bien le marathon, mais en fait c'est toujours le meilleur qui gagne, quoi.
Ah, souvent,
tu vois,
ouais.
C'est pas comme en vélo,
oui.
Par exemple, où tu peux être.
En vélo, il y a tellement de stratégies d'équipe,
voilà, l'aspiration et tout.
Ouais.
Bon, nous, le mec qui gagne, voilà, d'autant plus avec 3 quarts d'heure d'avance.
Il n'y a pas d'aspiration dans les potes.
Il n'y a pas de débat. Ouais.
Et pour y revenir sur ce que tu disais, en fait, il y a un peu de stratégie aussi de ma part, parce que j'ai vu qu'il était bien, que ce serait intéressant de faire du chemin ensemble. Et on était en groupe, tu vois, je le connaissais pas. On a discuté un peu, on a échangé. Je voyais qu'il était fort et je me suis dit, en fait, on sera plus fort à deux.
Mmh. Et on se dit quoi à ce moment-là alors?
Bah, moi, il m'est tout à fait sympathique. Je l'emmène dans la descente à Courmayeur.
Et il
de toute façon, comme je te dis, tu vois, à la fin, il y a 25 minutes d'écart.
Ouais,
de toute façon, je l'aurais fait sauter dans la descente,
ouais.
Il s'est mis derrière moi. Mmh. Et tu vois.
Ouais, après, bon, il finit 3, il finit devant Thibaut. Après, sans frontal, même derrière, c'est compliqué quand même la descente. Hein. Donc, ouais. Mais non, c'est un peu plus d'entraide quand même.
Ouais, c'est un peu du fair play, je trouve, quand t'es quand même un peu dans la montagne et tout.
Ouais.
Bon, là, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, mais si tu veux. Ouais, je sais pas, moi, c'est.
T'aurais fait comme ça, Ludo, toi?
Oui, bah, je pense. Et puis, mais c'est pareil, en fait, des fois, on est on double des coureurs qui sont un petit peu, en fait, dans la difficulté. Et puis. Juste un petit mot en fait pour lui dire on s'accroche tout ça et puis bah, des fois ça revient et puis on fait un bout de chemin ensemble voire on se fait passer après bon, voilà.
On l'a vu la petite tape dans le dos de Jim sur l'OCC
Ouais, Ludo, toi tu es quand même dans une année extraordinaire où tu t'es challengé sur les objectifs, la Hard Rock d'abord, super course pour toi, cette sixième place cette sixième place dans des conditions pas des plus faciles, on
un
va dire.
Différente. Un peu différente.
Et la diagonale des fous à venir, alors c'est une saison complète là.
Ça me fait vraiment du souci parce que comme j'ai dérouillé là sur la course, il va falloir voir, en fait avoir un peu les explications de vraiment ce qui s'est passé.
S-6 hein, voilà. Avant la diag des fous. Semaine -6.
Ouais, c'est ça, c'est mi-octobre hein, donc ouais.
Comment est-ce qu'on récupère justement d'un ultra comme ça pour arriver à peu près en forme sur un autre ultra finalement?
Ben, c'est une bonne question, je vais laisser mon coach répondre parce que non mais déjà je vais là c'est sûr que je vais couper un petit peu quoi. En plus j'ai d'autres occupations.
La dernière fois qu'on l'avait vu, il allait poser du parquet chez sa fille
du
une semaine après du carrelage.
Après la droite c'était carrelage et là c'est mon autre fille où j'ai une charpente qui arrive lundi.
Ah c'est vrai.
Mais là, pour l'instant je sais pas comment je vais monter sur le toit quoi.
Carreleur, charpentier, coureur de l'UTMB, Ludo Pommeret, vraiment.
Toutes les casquettes.
Ouais, c'est clair, mais moi j'ai une question quand même, désolé. Faut parler aussi de l'âge de temps en temps. 50 berges là que tu as eu le mois dernier. Comment le corps il réagit à tout ça ok les courses, mais le carrelage, la charpente, ça fait beaucoup.
Hein. Et ben c'est une bonne question parce que l'année dernière j'avais fait aussi cet enchaînement. Et puis voilà, c'est pas parce que je faisais la diag que je me suis dit celle-là je la joue pas à fond quoi. Enfin voilà, je suis pas comme ça et je préfère jouer toutes les courses à fond et puis on voit ce qui se passe à la fin. Mais et j'en ai moins chié l'année dernière, ouais. Donc, après, ouais, bah, cette année, j'ai fait encore plus l'année dernière. J'ai déjà fait pas mal d'événements avant la course. Il y a une grosse partie média en fait avant la course. L'année dernière, j'ai dû faire 22 événements. Cette année, je suis encore un peu plus. Donc, voilà, faut que je débriefe un peu pour savoir si c'est une partie des explications, quoi.
Ouais, mais l'atmosphère médiatique, tu le disais, toi, tu aimes ça quand même. Ça te booste aussi. Pas
ouais,
que bah, aussi de rencontrer des gens, le public.
Ouais, ça, et puis aussi, voilà, je viens la semaine, pas rester enfermé un petit peu dans sa bulle trop tôt et penser qu'il y a la course. Pour moi, c'est contre-productif, mais en tout cas mentalement. physiquement, du coup, je sais pas trop.
T'es pas un Yeti qui reste dans son igloo, finalement.
Non, pas trop. Mais je crois que Thibaut non plus, il arrive assez tard, justement, pour pas être trop tôt dans cette ambiance. Moi, quand j'ai gagné la course, j'étais arrivé le vendredi, quoi, avant la course,
le soir. Tu laisses du jus sinon, hein, tu laisses un peu de plume. Hein.
Thibaut, est-ce que un profil comme Ludo, voilà, on l'a dit, 50 ans, qui passait sur toutes les courses les plus réputées du trail, qui a eu des victoires mythiques, qui continue de performer à très très haut niveau, aujourd'hui il est juste derrière toi, c'est aussi une source d'inspiration pour la carrière d'un trailer de haut niveau?
Ah bah ouais, à 100%. Tu vois, par exemple. Enfin, moi j'ai aussi la chance de côtoyer Ludo au sein de l'équipe OCA depuis que j'y suis, donc ça doit faire 6-7 ans maintenant. Et puis je pense aussi à Julien Chaurier, et enfin, moi je me suis énormément appuyé sur leurs expériences. Et tu vois, le point que tu viens de citer par exemple, moi j'ai essayé un peu différentes stratégies sur mes 3 UTMB que j'ai eu. J'avais gagné la CCC en 2021, et quand j'étais arrivé en 2022 à l'UTMB, j'avais eu pas mal de sollicitations et j'avais essayé d'y répondre. En 2023, j'avais tout coupé, j'avais répondu à rien. Et du coup, cette année, en fait, j'ai essayé de me détendre un peu par rapport à ça. Faire un petit, alors, pas comme Ludo, enfin, j'ai pas du tout les mêmes niveaux de sollicitation. Mais en fait, voilà, d'arriver tranquillement, peut-être un jour de plus à Chamonix, et de prendre le truc un peu plus cool, de vivre un petit peu plus l'événement.
Oui.
Ça peut changer, ça, tu disais, de pas avoir autant de sollicitations que Ludo, mais faire premier français à l'UTMB, mine de rien, ça reste dans les têtes, ça peut changer ce statut d'avoir de plus en plus de sollicitations et d'être attendu sur les prochaines courses, encore plus que tu l'es aujourd'hui.
Bon, après, c'est plus pas anecdotique, mais c'est en fait, là aujourd'hui, la performance, elle a rien d'extraordinaire, donc je suis premier français, c'est super, j'en suis super content, mais il n'y a pas eu une perf, tu vois, comme Vincent l'an dernier par exemple, pour ses premiers UTMB il fait 19h55, ou Mathieu Blanchard en 2023
qui fait deuxième derrière Kylian,
voilà, qui fait deuxième en moins de 20h aussi pour la première édition en moins de 20h, où là il y avait vraiment quand même un côté perf historique, quoi. Donc moi je le vois plutôt comme ça, je pense pas que ça changera grand chose. Voilà.
Ouais, il parle de la seconde place qui a marqué parce qu'il y avait vraiment une grosse bataille. Mais sinon, globalement, en fait, c'était quand j'ai été courir en Chine, un distributeur de la marque qui nous invitait sur cette course, qui avait dit on retient que les premiers, quoi. Et c'est pas faux, quoi.
Et même les premiers français à Chamonix, ça c'est pas quelque chose qui marque assez.
Ouais, non, pas autant. Enfin,
en tout cas, vous venez sur RMC Running, donc c'est que vous avez marqué la course. Hein.
On a marqué la journée. C'est non, clair. Mais c'est vrai que c'est ponctuel, c'est l'effet d'une journée. Après, voilà, je reste quand même cinquième de la course à une heure de la gagne. Donc,
c'est pas une déception quand même, ça, pour toi, d'être. C'est pas une déception, je veux dire, d'être cinquième. Je ne pense pas, mais d'être à une heure de la gagne, d'être entre guillemets un peu loin.
Bah ouais. Alors après, pardon. Moi jusqu'à maintenant je courais ma meilleure perf, c'était 21h10, ça c'était gagné à 19h50, donc j'étais à 1h20. Donc moi je
rapproche.
Voilà, après là c'est aussi des athlètes qui sont professionnels depuis longtemps. Et ça je pense que ça compte un petit peu quand même. Au bout d'un moment, moi je sens que les perfs, je suis quand même limité par la quantité d'entraînement que je peux fournir au long de l'année, quoi.
Johan, toi tu le comprends, ça, sur le marathon de Paris, je pense à toi notamment, qui joue quand tu t'alignes les places de premier français. On ne retient pas cette perf selon toi sur les courses, malgré le fait que tu sois premier français. Finalement, tu arrives autour du top 10 sur un marathon, on retient pas ça.
Bah nous c'est compliqué parce que tu as forcément les Kenyans qui prennent tout le. Moi quand je me pars à Paris, je sais que top 10 déjà, tu sais que les 5 premières places elles sont mortes par le niveau des Kenyans, par les performances et tout ça. Donc effectivement moi je sais que je cours pour moi, je cours pour mes objectifs, et c'est vrai que nous le marathon, on a quelque chose qui est simple, ça s'appelle un chrono, et c'est une valeur étalon sèche qui te donne ta performance ou pas. Tu sais que moins de 10, t'as fait une bonne perf, de 10, de 12, ça va, de 12, de 14, c'est très moyen, et au-delà de 14, tu vois, c'est mauvais. Là, c'est des efforts différents, la météo est tellement différente, les parcours sont changeants suivant les années, des fois, ils squeezent des trucs. Donc c'est totalement différent. C'est vraiment toi avec ton coach qui doit faire l'analyse, de dire bah voilà comment je me suis senti, c'est bien passé, j'ai pas eu de problème gastrique, j'ai pas eu mal aux jambes, j'étais prêt, quelques petites erreurs par-ci par-là, et puis progresser, et puis des fois les planètes s'alignent. Vincent, l'année dernière, ça a été le cas. Il faut avancer comme ça petit à petit et pas regarder uniquement la place et le chrono en se disant bah ça c'est on s'arrête à ça, tu vois, c'est un ensemble de choses. Et puis c'est aussi dans la saison, Ludo fait 6, mais il y a un mois et demi il était à la Hard Rock, donc là c'est pareil, c'est en 6e après un tel effort sur la Hard Rock, donc il y a tout à prendre en compte, ouais.
Tu l'as senti ça, Ludo, dans les jambes sur cette UTMB, la Hard Rock quand même qui est restée un petit peu présente dans les mollets.
Ouais, on a essayé de travailler un petit peu différemment, en fait, que si on prépare qu'une seule échéance, forcément il y a une partie de récupération difficile de. J'ai un peu de mal en fait à pas remettre un petit peu de volume quand même avant l'échéance.
Toujours se rassurer.
C'est ça. Et bon, faudrait essayer différentes manières et voir. Et puis encore même d'une année sur l'autre. Un truc peut marcher, puis ça marche
pas. Ah non, mais complètement, ouais.
C'est ce qui fait la magie de ce sport, finalement, l'inconnu, comment on va réagir, les conditions météo, on en parlait, tout est l'inconnu, finalement. On peut juste bien se préparer et faire au mieux le mieux possible, ouais. Georgie, c'est ça, Thibaut.
Ouais, bah après, c'est un peu tous les sports, je pense, hein. Les sports de place, quoi. Comme tu disais, Yoann, c'est vrai que le chrono, bon, bah, c'est vraiment la sanction, quoi. Ouais. C'est universel. Nous, on a pas ça du tout. Dans notre sport, nous c'est vraiment la place qui compte, et ouais, c'est différent pour ça.
Bon. Après, moi je travaille jamais à la place, en fait. Je travaille justement en fait au chrono, en tout cas à différence avec les premiers, et c'est ça qui me donne la valeur de la course. Mais ouais. Quand je pars sur une course, en fait, je connais bien le parcours. Voilà, je me fixe un objectif chrono, pas un objectif place. Mais c'est vrai que ce qui est important au final, la place. Mais...
Deux profils très différents du coup entre Ludo et Thibaut. Mais justement, Ludo, j'allais te parler d'un parallèle peut-être avec le marathon. Est-ce que toi, tu arrives à te créer un objectif de temps, une fourchette pour chaque ravito, toi qui es assez réputé pour tes gestions de course, est-ce que c'est quelque chose que tu te mets en place avant la course, de dire à tel ravito, j'arrive entre telle heure et telle heure?
Non, on est obligé de donner une fourchette, ne serait-ce que pour l'assistance. Savoir à peu près quand ils doivent être là.
Mais, et la fourchette, elle est quand même élargie, ou
moi, j'ai jamais regardé si j'étais dans les timings, tout ça. Le seul moment, c'est à Courmayeur où il y a une grosse horloge quand on passe à côté. Mais le parcours a été un peu changé. Donc on a eu un peu plus long au départ. On a shunté une partie. Donc c'est difficile après de se dire si on est dans le timing ou pas, quoi.
Bon, en tout cas, on va vous laisser quand même récupérer parce que. Il fait pas si chaud que ça à Chamonix, même si
on le voit
chez
les Yeti.
Merci à toutes et tous, en tout cas, d'avoir suivi ce débrief spécial Ultra Trail du Mont Blanc. Merci à vous, les deux champions du jour, Thibaut Garivier 5e et Ludovic Pommeret 6e, premier et deuxième français de cette UTMB 2025.
Bravo. Il y a une des Françaises, du coup, parce que je sais pas pourquoi, on n'a pas trop eu le temps de regarder ce qui se faisait.
Eh bien, on a une super Française qui fait deuxième, quand même.
Deuxième.
Camille
Brouillas.
Ah oui,
Camille
Brouillas.
Ouais. Donc, une deuxième arrivée aussi ici à Chamonix, dont elle se souviendra longtemps. Ouais. Une pensée pour notre Laurent qui est ami d'RMC et qui doit être encore sur les sentiers à cette heure-ci, un amateur qu'on a accompagné tout au long de sa prépa. Merci à notre Johan Durand, évidemment, pour cette délocalisation à Chamonix. T'as été encore parfait, Johan.
Je me suis régalé. Franchement, vous m'avez donné envie de faire du trail, ça y est.
À la présentation, Johan.
C'était une de mes questions. Est-ce que... Parce que du coup, en fait, t'as un petit peu le temps. Est-ce qu'après le marathon,
le truc, c'est que moi, j'ai conscience que c'est quand même deux sports ultra différents et que moi, qui viens quand même de, j'ai fait que de la route et de la piste dans ma carrière, bah, il va falloir que je change ma façon de m'entraîner, ma façon de voir les choses et de vivre mon sport. Mais effectivement, là, je sens qu'il me reste un ou deux ans sur la route grand max et après, j'ai envie de basculer. Et le fait de vivre l'événement aujourd'hui, pendant ces quatre jours. Ouais, c'est une ambiance de dingue, c'est ce que j'ai vécu là, ouais, ça me donne envie quand je vois le village qui vit pour ce trail, pour cet événement là, pour toutes ces courses là, et le bonheur chez tous les coureurs. Et puis enfin voilà, les spectateurs sont là encore au bord des routes, il est 18h30, il y a encore des mecs de la PTL qui, ça fait 100 heures qu'ils sont qui sont dehors, qui passent, ils se font encourager comme des champions. Ça donne envie, ouais.
Et selon toi, qu'est-ce qui sera le plus à travailler?
Ah, cette transition musculaire, les descentes, la technique, Et puis après, bah, la durée d'effort, faut voir
tout.
Alors je pense, ouais, je pense tout, hein.
Tout bosser.
Tout, parce que, ouais, nous on a les yeux rivés sur le chrono, on a les yeux rivés sur la FC. On est tout le temps à regarder, bah, ses allures et tout. Alors qu'en trail, je pense qu'il faut quand même s'écouter, faire confiance à ses sensations. Il faut oublier, ouais, oublier le chrono, comme tu disais. Et puis après, il faut se connaître. Mais je pense que pour le coup, se connaître, ça va. Mais ouais, il va falloir bosser. Hein.
Souvent, ce qui est difficile pour soit les triathlètes ou marathoniens, c'est justement en fait l'appréhension du terrain, la lecture du terrain, arriver à réagir vite en fait à bah, tout ce qu'on a sous les pieds. Et ouais, souvent, c'est un peu compliqué.
Ah, c'est
pour
compliqué.
La caisse, il n'y a pas trop de soucis.
À la caisse, mais... ouais, mais c'est les enfin, moi, c'est le côté scientifique aussi de tous vos ravitaillements, de savoir rien oublier, de partir avec ça, de connaître sa quantité de glucides. De savoir s'alimenter et tout, je trouve ça ultra intéressant. Mais c'est ce que j'ai vécu quand je suis passé du 5000 au marathon. Bah, 5000, c'était un effort de 13 minutes sur piste où on s'alimentait pas. Et sur marathon, il a fallu déjà commencer à apprendre. Et là, ça sera pareil, multiplié par X sur, sur des ultras. Mais je démarrerai par du 40, hein, rassurez-vous. Je ne suis pas encore sur l'ultra.
Hein.
Voilà, mais alors ouais. Par contre, en trail, 2,14 sur 40, c'est bon, il y a un bon temps. Hein.
Oui, ouais, ouais, j'en doute pas.
Bon, Maître Yodu,
il y a qu'à l'éco-trail que tu peux
demandera
faire
des conseils plus tard quand il se mettra au trail à Ludo voilà. Pommeret, à Thibaut Carrivier. Merci encore à vous deux, merci Yodu.
Merci
et merci à vous qui nous regardez sur les plateformes d'RMC Running. Et ce conseil spécial UTMB, toujours pour finir, alors sur route comme sur sentier, levez les pieds, ça aide à ne pas tomber. Merci à tous.
RMC Running.